Bonjour, nous sommes les 4e A du Collège des Provinces. Nous allons vous parler de la justice.
Au programme de cette émission, une introduction de la justice, la cour d'assises, puis les mineurs à protéger, les mineurs délinquants, ensuite une présentation du métier d'assistant juge pour enfants, suivi du métier d'avocat et une interview du procureur de la République.
Pour terminer cette émission, nous allons vous parler des affaires du tribunal correctionnel que nous avons vues, puis de la prison. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
Intro de la justice.
Je vais vous expliquer comment est organisée la justice. Elle est divisée en deux parties. La justice civile juge les litiges, c'est-à-dire un conflit entre deux personnes et la justice doit trancher. Elle s'appuie sur le code civil. Par exemple, un conflit entre un patron et son employé va être jugé au conseil des prud'hommes. Un divorce va être jugé au tribunal de grande instance. La justice pénale juge les infractions, c'est le non-respect de la loi et les transgressions du droit. Elle s'appuie sur le code pénal. Il y a trois infractions. Les contraventions, c'est le non-respect du code de la route, c'est l'infraction la moins grave qui est jugée au tribunal de police par un seul juge qui peut donner des amendes, voire une suspension du permis de conduire. Les délits, c'est les coups et blessures, des vols ou encore des trafics de drogue qui sont jugés au tribunal correctionnel par trois juges qui peuvent donner des amendes, des travaux d'intérêt généraux, des emprisonnements pouvant aller jusqu'à 10 ans, ou une peine avec sursis, c'est par exemple quand on condamne quelqu'un de vol, il ne doit pas voler pendant tant de temps, sinon il est emprisonné. Les crimes, c'est les meurtres et les viols, ils sont jugés à la cour d'assises par 3 juges et 9 jurés qui sont tirés au sort sur les listes électorales. Pour être juré, il faut avoir plus de 23 ans et ne pas connaître les acteurs de l'affaire. Il ne faut pas non plus être policier ou militaire. Si une personne refuse d'être jurée, il risque une amende de 3 750 €. Si un justiciable, une personne qui peut faire exercer des droits devant la justice, n'est pas satisfait de son jugement, il peut faire un procès qui sera jugé en appel. La Cour de cassation est le tribunal le plus élevé de l'ordre judiciaire. C'est une juridiction permanente. Elle décide d'une annulation s'il y a une erreur.
Intro de la justice.
La cour d'assises juge les crimes et a le pouvoir de condamner l'accusé jusqu'à la perpétuité. La cour d'assises des mineurs, jugée par un juge pour enfants. La cour d'assises spéciale juge les crimes dirigés contre l'État, attentats, terrorisme. Et la cour d'assises d'appel rejuge une affaire déjà jugée à la cour d'assises. L'accusé n'est pas satisfait du verdict de son précédent procès et décide donc de faire appel.
En cour d'assises, le jury se compose d'un président, de 2 assesseurs, de 9 jurés. Il se charge de délibérer. Ensuite, il y a un avocat général qui fait le réquisitoire et le greffier rédige un arrêt. On retrouve le ou les accusés assistés d'un avocat de la défense. La victime, elle, est accompagnée de l'avocat de la partie civile. Les témoins et experts sont aussi présents. La famille de l'accusé peut être là aussi. Dans une cour d'assises spéciale, ce sont 6 magistrats de carrière qui sont désignés par le premier président de la cour d'appel. Dans cette cour, il n'y a pas de jury. La cour d'assises d'appel se compose comme la cour d'assises, sauf qu'il y a 3 magistrats et 12 jurés au lieu de 9.
Ensuite, il faut savoir qu'une affaire en cour d'assises ne se déroule pas pareil qu'un tribunal correctionnel. Elle commence par la vérification d'identité de l'accusé. Le président lui demande son nom, prénom, sa date de naissance, sa profession et où il habite. Ensuite vient la composition du jury. Ce sont 9 citoyens qui sont tirés au sort sur une liste électorale. Ils assisteront tout au long du procès le président et les 2 juges professionnels. Ils participeront aussi aux délibérés. L'audience commence par la lecture de l'ordonnance de mise en accusation faite par le ou la greffière. C'est en fait un document rédigé par le juge d'instruction. Il résume les éléments du dossier, donc ce qu'il s'est passé, et pour quelle raison l'accusé est venu en cour d'assises. C'est l'exposé des faits. L'étude de la personnalité de l'accusé a beaucoup d'importance. Elle permet au jury de mieux connaître et comprendre qui ils vont juger, de savoir ce qui l'a poussé à faire ça. Cette étude se fait grâce à l'audience d'experts, des psychiatres, des psychologues ou bien des médecins viennent donner leur apport.
C'est au tour des témoins de venir à la barre. Avant tout, ils doivent prêter serment devant la cour et doivent s'exprimer librement. Ces témoins peuvent être des témoins de la scène, des proches de l'accusé ou de la victime. Seul le président peut leur poser des questions. Après, la victime, toujours en dernier, vient le tour de l'accusé. Il peut dire ce qu'il souhaite au juré. Il est important de savoir qu'en cour d'assises, un procès se déroule toujours à l'oral. Donc ce qui va vraiment compter est tout ce qui est dit à l'oral et non ce qui est écrit dans les dossiers ou sur les documents. Ensuite, ce sont les plaidoiries et le réquisitoire sont faits par les différentes parties qui prennent la parole.
On commence avec la plaidoirie de la partie civile. L'avocat de la victime va exposer le point de vue de son client et demander une réparation du préjudice causé. Vient ensuite l'avocat général, il va expliquer pourquoi il pense que l'accusé est coupable, des faits qui lui sont reprochés, en fonction de ce qu'il y a été dit durant l'audience. Il va donc ensuite proposer une peine qu'il estime justifiée par la gravité des faits, du passé pénal de l'accusé et de sa personnalité. Et enfin, l'avocat de la défense, donc celui de l'accusé, prend la parole en dernier et va défendre son client.
Le jury va ensuite se retirer pour délibérer en secret. Cela peut prendre quelques heures, voire quelques jours, mais c'est rare. Et puis, une fois leur décision prise, ils vont réintégrer la salle d'audience et le président annonce le verdict. Pour qu'une peine soit choisie, il faut 7 voix des jurés pour la valider. La culpabilité de l'accusé, les circonstances aggravantes et le refus de circonstances atténuantes doivent être pris à la majorité de 8 voix. Si l'accusé est déclaré coupable, il recevra une peine, une amende par exemple. Mais si sa culpabilité n'est pas établie, il sera alors acquitté.
Cour d'assises.
Merci à vous. Place à la justice des mineurs. La justice des mineurs.
Le sujet dont nous allons vous parler est la justice des mineurs, et plus particulièrement des raisons pour lesquelles il faut les protéger. Un mineur, c'est quelqu'un qui a moins de 18 ans. La justice des mineurs est différenciée de celle des adultes, selon des principes qui datent du 2 février 1945.
Commençons par rappeler les droits de l'enfant. La justice française doit protéger tous les enfants qui vivent sur le territoire. Ils doivent être protégés de l'esclavage, de la pornographie et de la prostitution, ainsi que contre la violence et la maltraitance. Ils ont également le droit d'aller à l'école, d'être soignés, d'avoir une identité et une nationalité. Que les enfants soient délinquants ou victimes, ils sont considérés en danger par la justice.
Cette dernière, visant à les protéger, est adaptée par rapport à celle des adultes. Les mineurs sont jugés par un juge des enfants ou un juge d'instruction s'il y a eu un crime. Il y a également 2 assesseurs non professionnels, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de formation dans la justice. Ce sont parfois des psychologues ou des pédiatres. Lors du jugement, il y a obligatoirement un avocat qui est des fois spécialisé dans la défense des enfants. Il y a des aides financières pour ceux qui n'ont pas les moyens d'en payer un. On appelle cela l'aide juridictionnelle. Pour éviter que les enfants aient des problèmes, le procès est à huis clos, cela signifie qu'il n'est pas public.
La garde à vue est adaptée selon l'âge du mineur. Ceux qui ont moins de 16 ans disposent de droits particuliers par rapport à ceux des adultes. Parmi les mineurs de moins de 16 ans, des mesures différentes sont prises selon les tranches d'âge.
Les mineurs de 13 à 15 ans ne peuvent pas être gardés à vue plus de 24 heures, sauf dans le cas où le mineur est soupçonné d'avoir commis un délit ou un crime qui aurait valu 5 ans d'emprisonnement à un majeur. Dans ce cas, la garde à vue peut aller jusqu'à 48 heures.
Un mineur de 10 à 12 ans ne peut être retenu par la police ou la gendarmerie que s'il est soupçonné d'avoir commis un délit ou un crime qui aurait également valu 5 ans d'emprisonnement à un majeur. Si le mineur est retenu, la garde à vue n'excédera pas 24 heures.
Pour les mineurs de 16 à 17 ans, la garde à vue n'excède pas 48 heures, sauf si le mineur est soupçonné d'avoir agi en bande organisée. Et dans ce cas, la garde à vue sera prolongée à 72 heures.
Lorsqu'un mineur de moins de 16 ans est mis en garde à vue, ses parents sont immédiatement prévenus. Le mineur est obligatoirement vu par un médecin et assisté d'un avocat pendant la garde à vue, sauf si le magistrat s'y oppose. La justice protège les enfants délinquants, mais aussi ceux qui sont victimes. Elle aide les enfants si leurs parents divorcent. Le mineur a le droit de demander à vivre chez un de ses parents particulier, il peut adresser sa demande au juge ou à un tiers qui la lui transmettra. Sa demande ne sera pas nécessairement acceptée.
La justice a pour devoir de protéger tous les enfants victimes de maltraitance. Il est important de rappeler que la maltraitance n'est pas tout le temps physique. Elle peut aussi être psychologique, par exemple quand l'enfant subit régulièrement des injures ou des humiliations. La première chose que peut faire un enfant victime de maltraitance, c'est d'appeler le 119, un numéro d'urgence pour les mineurs en danger. Si jamais il appelle un de ces numéros, il pourra le faire en toute tranquillité car cela ne figurera pas dans son relevé de téléphone.
Dans les cas où l'appel téléphonique ne suffit pas, il peut aussi y avoir la mise en place d'un éducateur spécialisé. Il y a deux cas de figure. Si le jeune reste dans son milieu familial, l'éducateur sera là pour le protéger, tout en aidant les parents à éduquer leur enfant. Si le jeune est placé dans un établissement fermé, l'éducateur l'aidera à tracer un projet de vie. Ils établissent ensemble un parcours scolaire adapté. Ils l'aident aussi à se réintégrer dans la société et parfois dans sa famille afin de retrouver une vie normale.
Les mineurs peuvent être retirés à leur famille dans certains cas de figure qui visent bien à les protéger et non à les sanctionner. Il y a par exemple les carences éducatives, c'est quand il y a une absence d'éducation. Les difficultés psychologiques ou psychiatriques des parents, les conflits familiaux, l'alcoolisme ou la toxicomanie d'un ou des deux parents, la maltraitance, violence physique ou psychologique, l'inceste, les abus sexuels ou une absence et négligence de soins.
Dans un de ces cas, ce sera le juge qui décidera où l'enfant sera placé pour être protégé. Ils seront placés en foyer, en famille d'accueil avec ou sans droit de visite de la part des parents, ou encore placés chez un membre de leur famille. Les sanctions sont également adaptées. Elles sont le plus éducatives possible et sont proportionnelles au délit. La sanction éducative est une mesure pour protéger les mineurs délinquants d'eux-mêmes. Même si la justice les sanctionne parfois, elle est avant tout là pour protéger les mineurs.
La justice des mineurs.
Un mineur en infraction qui dévie la loi par ses faits et ses actes peut se trouver dans un tribunal de police pour être jugé. Et sa peine est toujours la moitié de celle encourue par un adulte pour la même infraction.
À partir de 13 ans, les enfants ont un casier judiciaire. Les mineurs, âgés de moins de 16 ans, auteurs d'un crime ou d'un délit, sont jugés par le tribunal pour enfants. Un tribunal pour enfants est composé du juge pour enfants et de deux assesseurs. Est présent un représentant du parquet, le greffier.
Le juge pour enfants peut prononcer des mesures éducatives, une peine d'intérêt général et une amende dans la limite de 7 500 €. Ensuite, les mineurs de plus de 16 ans, auteurs d'un crime, sont jugés par la cour d'assises des mineurs à huis clos.
On peut trouver la cour d'assises des mineurs qui se constitue de 3 magistrats et 9 jurés. Cela vise les mineurs de plus de 16 ans, auteurs d'un crime pour meurtre, viol ou autre.
La justice des mineurs. Voilà, nous venons de parler de la justice des mineurs. La première pause musicale s'impose.
Décembre 84, il tient la main de sa copine pour défier l'hiver. La nuit part pour être belle, mais elle se transforme vite en triste fait divers. Ils se croient seul au monde dans les ruelles, mais à l'évidence ils ne le sont plus. Deux skinheads en manque d'embrouille et d'adrénaline viennent leur tomber dessus. Une gifle pour éloigner la fille, les mecs le rouent de coups à 2 contre 1. Le visage contre le bitume glacé, voyant la mort arriver, il se sent contraint de sortir son arme, car il est tout sauf un enfant de cœur. L'un des skins meurt sur le coup, et l'autre hurle encore sa douleur. Tout est allé si vite. Mais pourquoi ces mecs se sont retrouvés sur son chemin? La douleur physique n'est rien quand il la compare à la peur du lendemain. Il s'est rendu au matin plaidant la légitime défense corporelle. Il est jugé en quelques mois et prend 10 ans de réclusion criminelle. Il pense souvent à eux, il rêve tout le temps à elle. Il a beau regarder très loin, il ne voit pas le bout du tunnel. Il découvre le cauchemar, l'humiliation, les matelas crades, les pieds enchaînés lors des transferts et les bagarres lors des promenades. Et alors qu'il subit depuis plus d'1 an le système carcéral, une terrible nouvelle vient ajouter sa voix à la triste chorale. Il est porteur d'un étrange virus que le monde découvre craintif. 1985, nouvelle sentence, il est séropositif. Aucun traitement n'existe, plus rien à perdre, il se sent condamné à mort. Alors il va être le plus fou dans un monde où c'est la loi du plus fort. Il tombe dans tous les pièges, là où la spirale de la violence se corse. Et puis
qu'on le traite comme un chien. Alors il sera le chien le plus féroce. Il sort enfin au bout de 8 ans, l'avenir aussi triste que son pactage. Les poches vides mais le sang plein de rage. Alors il monte sur un braquage. Il se fait serrer un an plus tard et c'est le retour à la case cauchemar. À la case où tout est sombre et où la nuit dure des semaines isolée au mitard. Il ne pense plus à eux, il ne rêve plus à elles. Il n'ose même plus regarder devant, il est trop loin le bout du tunnel. Ou alors ce bout du tunnel, il va falloir se le construire. Il sait que s'il ne tente rien, c'est dans ses murs qu'il va mourir. 9 octobre 94, date anniversaire de l'abolition de la peine de mort. Il réussit son évasion et abolit lui-même son triste sort. Quelques mois de cavale seulement avant de rejoindre les murs tout gris. Quelques mois de liberté agitée avant de repeindre les murs d'oubli. Il est alors placé directement dans les quartiers de haute sécurité. À l'isolement pendant 5 ans, on lui dit que c'est tout ce qu'il a mérité. Quand il se regarde dans le miroir, il a peur de ce que le reflet lui montre. C'est vrai, ça n'a jamais été un tendre, mais la prison a fait de lui un monstre. Un malheur n'arrivant jamais seul, le sida se déclare, la maladie s'installe. Il meurt peu à peu sans assistance et dans l'indifférence la plus totale. 1995, à deux doigts de quitter la prison pour le cimetière. La trithérapie fait son apparition et lui remet doucement les pieds sur terre. Poussé à nouveau vers la vie et essayant de voir derrière les barreaux de fer, il se marie avec celle qu'il aime, ses sentiments réchauffent enfin l'atmosphère. Mais son jugement, toujours en attente, finit un sale jour par tomber. Pour évasion et braquage, il prend 30 ans, le bout du tunnel s'est estompé. Pourtant, il garde en lui l'espoir, il a tellement tutoyé la mort. Il se sent invincible, c'est sûr, il sait qu'un jour il retournera dehors. En 2000, il se met à écrire sa nouvelle arme pour survivre face au système. Il gratte jour et nuit, ce n'est plus lui désormais, mais c'est son stylo qui saigne. Il écrit son premier livre et tient en ligne le premier blog d'un prisonnier. Ses œuvres transpercent les portes blindées, maintenant plus personne ne peut nier qu'il est vivant, qu'il existe, qu'il réinvente le mot avenir. En 2008 naît sa fille et l'amour et la vie ne sont plus des souvenirs. Il a les mains sur ses stylos, fini le temps des mains en l'air.
Avant je m'évadais au pistolet, aujourd'hui je m'évade à l'épistolaire.
Il sort en janvier 2010 avec des projets et des repères. Après 25 ans passés dans un tunnel, Laurent a rejoint la lumière.
De retour sur Studio ZEF, nous allons parler du métier d'assistance pour enfants avec Lily, Logan et Benoît.
Les métiers de la justice.
Assesseur du juge pour enfants. Le juge des enfants a pour mission de juger et protéger, grâce à la loi, les enfants ayant commis des crimes ou des infractions. Il peut être accompagné d'assesseurs qui doivent le seconder. Nous avons interrogé un assesseur du juge pour enfants et voici ses réponses. Est-ce un métier ?
Être assesseur du juge des enfants n'est pas un métier, c'est une fonction. Un métier est une sorte de devoir et on doit suivre une formation, alors qu'une fonction ne nécessite pas de formation.
Combien y a-t-il d'assesseurs à Blois ?
À Blois, il y a environ 10 assesseurs rattachés au tribunal de Blois.
Combien de procès fait-il en moyenne par an ?
Il y a environ 3 ou 4 audiences au maximum par an. Chacune d'elles englobe 4 à 7 affaires.
Depuis combien de temps exerce-t-il cette fonction ?
Il exerce cette fonction depuis 6 mois.
Quelles sont les compétences requises ?
Il faut s'intéresser à la justice des mineurs, avoir une capacité d'écoute et savoir prendre du recul.
À partir de quel âge peut-on devenir assesseur ?
On peut devenir assesseur à partir de 30 ans. Il faut bien sûr avoir la nationalité française.
Que fait-il concrètement pendant une affaire ?
Tout d'abord, il prend connaissance des dossiers, puis il écoute attentivement le rappel des faits par le juge. Ensuite, il écoute les réactions de l'accusé, les avocats et pour finir, les conclusions du procureur de la République ou de son représentant. Ensuite, le juge et ses deux assesseurs se concertent pendant 10 minutes maximum pour délibérer la sentence. Après, ils reviennent dans la salle et annoncent la peine décidée.
Cette fonction nécessite-t-elle une formation ?
Cette fonction ne nécessite pas de formation. Il y a juste un guide qui écrit.
Quel est son métier ?
Il est principal d'un collège.
Pourquoi avoir choisi d'exercer cette fonction ?
Il s'intéresse aux jeunes et à la protection de la jeunesse. C'est intéressant pour son travail, car il est confronté à de nombreux cas dans son métier.
Quelle est l'affaire la plus difficile que vous ayez rencontrée ?
C'est une agression sexuelle sur mineur avec inceste.
Quelle est la peine maximale ?
La peine maximale est l'emprisonnement ferme.
Quels sont les inconvénients ?
De traiter des affaires dures à écouter.
Qu'est-ce que l'irresponsabilité légale absolue ?
L'irresponsabilité légale absolue, c'est qu'à partir de 10 ans, on peut passer au tribunal, et à partir de 13 ans, on peut être jugé.
Les métiers de la justice.
À présent, nous allons vous présenter le métier d'avocat. Tout d'abord, l'avocat peut exercer dans deux parties de la justice. La justice civile, pour les litiges, ou pénale, pour les délits ou crimes. L'avocat peut aussi se spécialiser dans plusieurs domaines. Droit des affaires, droit fiscal, droit international, etc. Pendant un procès, l'avocat fait une plaidoirie pour défendre son client. Pour préparer sa plaidoirie, il doit étudier et faire des recherches sur ses dossiers pour trouver des arguments à plaider, pour convaincre ainsi le jury ou le juge de l'innocence de son client.
Pour arriver au métier d'avocat, il faut faire de longues études. Premièrement, il faut faire un master en droit qui dure minimum 4 ans. Ensuite, il faut procéder à son inscription au IEJ, Institut d'études judiciaires, ce qui servira à se préparer à l'examen très sélectif CRFPA. Si on est reçu, il faut poursuivre avec 18 mois de formation qui se découpent en 3 périodes de 6 mois chacune. La première pour acquérir les fondamentaux, la deuxième consacrée au projet pédagogique de l'élève avocat, et la troisième concerne le stage au sein d'un cabinet d'avocat.
Hormis les études, il y a plusieurs qualités requises pour ce métier. Il faut être motivé et rigoureux, organisé pour pouvoir jongler d'une affaire à l'autre. Il faut aussi savoir gérer son temps et son stress qui peut être transmis par des clients. L'avocat se distingue aussi par ses talents d'orateur et son fort pouvoir de persuasion, surtout lorsqu'il plaide au tribunal.
Après ces longues études, il existe deux manières de commencer à exercer. La première en tant que salarié dans une entreprise qui possède son propre service juridique, et la seconde en tant que collaborateur dans un cabinet, pour gravir les échelons et développer sa propre clientèle.
Comme tous les métiers, il y a des avantages et des inconvénients. L'avocat est soumis à un stress quotidien à cause d'un calendrier surchargé. Il ne compte pas ses heures et travaille aussi le week-end, ce qui ne lui laisse pas beaucoup de temps pour sa vie personnelle.
Malgré ces inconvénients, l'avocat n'aura pas de mal à trouver un employeur car les débouchés sont stables. Le travail n'est pas répétitif car aucune affaire ne se ressemble. Chaque jour, une nouvelle histoire commence.
Les métiers de la justice.
Bonjour.
Bonjour.
Combien d'années d'études faut-il faire pour être procureur ?
D'abord, je voudrais vous dire que ça fait un moment que je suis là et je trouve votre tout ce que vous avez fait au travail formidable. Voilà. Et c'est pas pour vous faire plaisir, parce que c'est la réalité. Alors, combien d'années ? Moi, j'ai fait 4 années de droit. Ça s'appelait à l'époque, parce que je suis un peu vieux maintenant, une maîtrise en droit. Aujourd'hui, ça s'appelle un master 1. Ça, c'est le minimum. Mais en fait, il faut avoir un master 2, donc 5 années. Puis après, éventuellement, faire une préparation au concours qui est un peu délicat à passer.
Quel a été votre parcours jusqu'au métier de procureur ?
Eh bien, j'ai été à l'école, comme vous. Je travaillais comme vous. J'ai réussi comme vous. J'ai eu mon baccalauréat. Mes 4 années de droit, moi, je n'en ai fait que 4. Puis après, j'ai fait une année de préparation et puis j'ai eu le concours. Voilà.
En quoi consiste votre métier ?
Mon métier, c'est un métier de magistrat. Hein. Moi, je suis procureur, mais vous savez, il existe des magistrats en France, avec d'un côté les procureurs, de l'autre les magistrats qui jugent, les magistrats du siège. Mon métier de procureur, c'est intéressant, c'est de recevoir les plaintes quand quelqu'un est victime. Tout à l'heure, j'ai entendu qu'il y avait des infractions, hein, une contravention des lieux d'un crime. Quand quelqu'un est victime d'une infraction, il vient se plaindre. Et donc, moi, j'entends la plainte, je mène une enquête avec les policiers ou les gendarmes. Et après, je prends une décision pour renvoyer quelqu'un devant un tribunal ou pas, par exemple. Hein, prends une décision. Puis à l'audience, vous l'avez dit, le procureur, il doit prendre des réquisitions. C'est-à-dire qu'il doit demander, par exemple, l'application de la peine en disant, moi, je trouve qu'il faut condamner cette personne à tant d'années de prison. Voilà. Et après, j'exécute la décision qui a été prise. Donc, ça fait un métier avec plein de fonctions à réaliser, qui n'est pas toujours évident, mais qui est très, très intéressant.
Quelle tenue portez-vous pendant les audiences ?
Tenue un peu particulière, c'est une robe. Et c'est intéressant parce que la robe, ça permet de dire que c'est pas un tel ou un tel qui juge, c'est la justice qui est comme ça, pas personnalisée, mais qui est exercée par quelqu'un qui soit homme ou femme, Il faut surtout qu'il ait des valeurs d'écoute, de loyauté et qu'il puisse trancher un litige sans que ce soit un problème de personne. Donc c'est pour ça que je porte une robe pour représenter l'institution.
Combien d'affaires jugez-vous par mois ?
Alors moi, je ne juge pas d'affaires, mais je suis à un certain nombre d'audiences. Alors, au tribunal de grande instance de Blois, par exemple, on juge à peu près, je ne sais pas, une centaine peut-être d'affaires par mois. Hein, voilà. Moi, je ne suis pas dans toutes, hein, parce que j'ai des collègues qui travaillent avec moi, heureusement, sinon je serais épuisé.
Avez-vous déjà été avocat général et pouvez-vous l'être ?
Oui, avocat général, il ne faut pas confondre avec le métier d'avocat. Avocat général, c'est le procureur de la République devant la cour d'assises. Donc c'est toujours le même métier, je suis celui qui fait les enquêtes, etc., et qui à l'audience prend des réquisitions. Et on m'appelle avocat général, mais je ne suis pas l'avocat, je suis l'avocat de la société en fait, c'est en ce sens-là que je suis avocat général. Hein. Devant le tribunal, on appelle ça le procureur de la République, et devant la cour d'assises, on appelle ça l'avocat général. Donc je l'ai été, oui, au moins, je ne sais pas, entre une trentaine de fois depuis que je suis magistrat.
Quelle est l'audience qui vous a le plus marqué ?
J'en ai pas de particulière, peut-être une affaire que vous avez dont vous avez entendu parler, d'une dame qui avait tué son mari, qui s'appelle Mme Sauvage. J'étais l'avocat général dans cette affaire-là. J'avais requis 10 ans de prison, elle a été condamnée à 10 ans de prison, et justice a été rendue.
Êtes-vous stressé quand vous prononcez votre réquisitoire ?
Bah oui. Hein. Je me souviens toujours d'une parole de Louis Jouvet, un grand acteur de théâtre, qui disait à un jeune qui commençait le métier, il disait « Est-ce que tu as le stress, tu as le trac ?» Le jeune disait non, mais il lui a dit « Ça viendra avec le talent. » Donc moi j'ai toujours un peu de stress, ouais, même avec vous là.
Pourquoi vous êtes-vous engagé dans la justice pourquoi spécifiquement procureur ?
Oui. Je me suis engagé dans la justice parce que je me suis dit, on a un temps de passage limité sur Terre, vous le savez, hein, ça c'est sûr, pour tout le monde. Et je me suis dit, autant que ce passage soit utile. Donc j'ai réfléchi, au départ je voulais être menuisier, parce que je trouvais utile de faire des meubles. C'était compliqué parce qu'à l'époque, il aurait fallu que je quitte l'école trop tôt, mais mes parents, qui étaient des parents classiques, très gentils mais classiques, préféraient que je continue les études normales. Alors j'ai continué les études normales. Ma maman était avocat, donc j'ai découvert un peu le métier de la justice et je me suis dit que magistrat, ce serait bien. Voilà, c'était pour être utile le temps de mon passage sur cette terre.
Quels sont les avantages et les inconvénients du métier de procureur ?
Les avantages, c'est qu'on fait un métier un peu d'autorité. Moi, j'aime bien ça. C'est-à-dire que j'exerce un métier où je suis... je dois représenter un peu l'ordre, faire en sorte que les choses se placent plutôt bien dans la société, donc j'aime bien ça. C'est un métier où on gagne correctement sa vie aussi, puisque vous avez me posé la question. Mais c'est un métier où on travaille beaucoup, mais bon, j'en connais pas où il faut pas beaucoup travailler d'ailleurs, si on veut faire les choses correctement, donc c'est un métier qui globalement m'intéresse beaucoup.
Quel sujet vous appréciez ou vous n'appréciez pas défendre ?
Alors, moi, j'ai pas à choisir finalement, hein, puisque la commission d'infraction, c'est pas moi qui l'a choisi, donc... je fais avec ce qu'on me donne, en fait, et les infractions qui sont commises, donc je n'ai pas de préférence particulière. C'est toujours compliqué de gérer les affaires où il y a des enfants en cause, parce que c'est compliqué, les enfants, et puis voilà. Bon, enfin, je n'ai pas de préférence, et j'essaie de faire en sorte de pouvoir affronter toutes les situations.
Êtes-vous procureur seulement dans les tribunaux correctionnels ou dans d'autres tribunaux ?
Alors, je suis procureur devant le tribunal de police, qui juge les contraventions, le tribunal correctionnel qui juge les délits, et je suis avocat général devant la cour d'assises. Donc je représente le ministère public un peu partout.
Accepterez-nous de vous faire part de votre salaire ?
Oui. Alors, je gagne des sous. C'est normal, je travaille. Alors, ça se décompose en deux choses. J'ai une partie fixe, chaque mois, à peu près 5000 euros. Et après, j'ai une partie liée avec des primes, plus ou moins, alors en fonction de si je travaille bien, pas bien, etc. Voilà. Donc, ça va, en gros, ça fait à peu près aux alentours de 7000 euros, 7500 euros, peut-être 8000 euros si je travaille beaucoup. Voilà. Alors, ça peut paraître beaucoup, mais en même temps, je travaille... beaucoup aussi, voilà. Donc c'est normal que quand on travaille beaucoup, on gagne à peu près des sous en rapport avec ce que l'on fait, voilà.
Merci beaucoup.
Bonjour, merci à vous.
Les métiers de la justice.
Merci au procureur d'avoir été là et d'avoir répondu à nos questions. Maintenant, la deuxième pause musicale.
Accusé, levez-vous, monsieur Socrate. Dit MacTailleur, né à Aubervilliers le 23 avril 79. Votre casier judiciaire porte mention de deux condamnations. Voilà ma armée, séquestration, vous êtes envoyé devant la cour d'assises pour tentative d'assassinat sur M. MacGregor, né à Saint-Denis, Lors de l'instruction, vous avez nié les faits. Expliquez-vous aujourd'hui sur ce qui vous est reproché.
Bon, madame la juge, j'ai rien d'autre à vous dire. Cette histoire me dépasse, faut me croire. Ce soir-là, c'est pas moi qui ai mal agi, je n'ai pas tiré. Faites une requête à l'IGS pour enquêter sur le PJ.
Monsieur, arrêtez d'induire en erreur les enquêteurs, quoi.
Voilà,
oui,
attendez.
Des questions, monsieur le procureur.
Madame la présidente, allons-nous laisser l'accusé remettre en question le travail fait par les inspecteurs?
Surtout pas, je demande le premier témoin de l'affaire.
Bonjour.
Donc faites entrer à la barre, monsieur le commissaire.
Il devait être 22h30 quand l'appel radio nous a signalé une agression à main armée au 80 rue de l'Impasse. On n'était pas très loin parce qu'on était sur ce gars depuis 9 mois déjà pour des trafics de stupes. On attendait juste le flagrant délit, un truc croquant à se mettre sous la dent. On n'avait rien de sérieux, madame la présidente.
Très bien, procureur, des questions? Non? Bon, maître, c'est à vous. Des questions?
Monsieur le commissaire, vos états de service sont impressionnants. Vous ne comptez plus les arrestations seulement? Une affaire fait tâche dans votre dossier, accusation de corruption que l'IGS finit par classer. 6 mois à filer mon client, vous le dites vous-même, aucun résultat, rien à se mettre sur la dent. Peut-être que comme mon client l'indique, il a mis fin à ses anciennes activités illicites.
Mais ça a rien à voir là, de quoi vous parlez? C'est mon procès qu'on traite ou quoi? Je vois pourquoi on secoue mon passé. On est venu comme je vous l'ai dit, moi et mon collègue, après avoir enfoncé la porte. Et ce qui s'est passé est écrit dans mon rapport.
Monsieur le commissaire, veuillez garder votre calme, évitez tout écart, je vous rappelle que vous êtes à la barre. Faites entrer monsieur Marc Grégoire, témoin dans cette affaire, c'est okay. À vous, s'il vous plaît, veuillez être clair.
Madame la présidente, pour être franc, ça fait 1 heure que je suis assis dans le box. J'écoute les conneries de l'autre flicaillon qui me fait passer pour un tox. Soir là, je me rappelle pas trop des faits, juste que c'était pas drôle. Et que c'est Passot qui m'a tiré dessus pour notre accueil.
Quelle éloquence, monsieur Marc Grégoire. Mais nous ne sommes pas au théâtre, et à la barre, il faut être fiable. Et le prochain témoin n'accuse pas, il donne des faits.
Donc faites-le appeler pour qu'il puisse témoigner.
Ce putain de quartier a plus d'âme. Sans tout satin, ça fait le drame. J'suis face trop de cul de concierge, planqué derrière un Judas, loin d'être vierge. Mon casier porte le poids de mes erreurs. Comme ce gosse écrasé, des fleurs du sang sur son Bermuda. J'ai payé ma dette, j'roule droit à la tôle, m'a rassasié. J'étais cool avec ma môme quand j'ai vu l'arme et sa tête. Un brasier dans ses yeux, j'imagine la suite. Ça pète dans tous les sens, ça sent la poudre, les substances illicites.
Mais en parlant de substances, êtes-vous toujours alcoolique?
Désolé, ma dernière cuite était en 98. Cet enfoiré nous a frôlé, moi et la petite, il pissait la rage.
Vous êtes dans un tribunal, surveillez votre langage. Un nouveau témoin devrait intervenir à la barre, s'il vous plaît, je demande, Bachir.
Écoutez, moi j'ai tout vu, j'ai tout entendu, je vous dis tout, pas de malentendu. Ces keufs sont des ripoux, au départ de l'histoire, j'étais chez Mac Grégor. Pépère, il était tard et d'un coup ça frappe fort. Mon pote s'agite, s'excite, hésite à aller voir, puis me suggère de me glisser dans l'armoire. Elle entre-ouvert, lui a ouvert, le man est insolent, violent et muni d'un revolver. Mon compère s'explique, essaye de le calmer, mais très vite le jeune homme a commencé à s'emporter. Puis soudain la porte claque, les policiers débarquent, un keuf braque, il a le trac, les nerfs craquent, un coup part. L'homme se tient la tête, regrette ce qu'il vient de faire, ma tailleur reste de fer et mon pote est par terre.
Attendez, attendez, un coup part, vous l'avez vu, vous l'avez entendu, et tout ça du placard?
Et je l'ai vu et entendu. Comme je vous vois, comme j'ai vu ce policier prendre le brolic à McTyre, je l'ai vu et entendu parler à petite voix, parler de balistique et comploter pendant des heures.
Oh, de qui parle là? De qui parle? Madame,
calmez-vous,
c'est pas vrai.
Calmez-vous, je vais évacuer la salle. Calmez-vous, j'ai dit. Merci. Bon, nous allons poursuivre et passer aux réquisitions. À la barre, monsieur le procureur, c'est à vous.
Mesdames et messieurs les jurés, nous avons là une affaire simple. Une histoire de ghetto de plus qui vire au drame. Et aujourd'hui à la barre, la routine s'installe. Que dire de plus? Un soir il devient fou, il sort avec une arme. Et un témoin l'a vu. Vous l'avez entendu, à n'en pas douter, vous y avez cru, l'accusé a été reconnu. Le témoin était là avec son enfant lorsqu'il croisa l'accusé armé d'un revolver menaçant, en criant de venger la victime. Peu de temps avant le crime, devant un père et sa fille. Peu de temps avant le crime, mais l'accusé ne s'arrête pas là. Le commissaire vous l'a dit sous serment, il a tiré. Avec sa rage mortelle, il a tiré. L'accusé avait fermement l'intention de tuer. Il est coupable, mesdames et messieurs les jurés. Laissez cette bombe à retardement dans les rues, serait insensé. Et ne vous laissez pas abuser. Les témoins de la défense sont tous du même quartier. Ils jouent à l'arme à feu, drogue, ils en passent, c'est pourquoi leurs récits ne sont pas dignes de foi. Et n'oubliez pas l'accusé, multirécidiviste, agressif, un délinquant qui joue avec la justice. Afin de savoir vos enfants en toute sécurité, cet homme se doit d'être enfermé. Madame la présidente, je requiers une peine de 8 ans d'emprisonnement et laisse la parole à la défense.
Libérez-le, monsieur
liberté, égalité, fraternité. Messieurs les jurés, pourquoi personne n'y croit plus dans nos cités? L'égalité des chances, une utopie, car on ne mène pas la même vie. Du 16e à Saint-Denis, il faut l'avouer. N'accentuons pas les injustices au nom de la fraternité. Refusons d'être complices de l'assassinat d'une liberté. Le tout, c'est d'admettre qu'un homme peut changer. Notre société ignore-t-elle le pardon? Peut-on condamner sur de simples présomptions? Notre police n'est pas infaillible dans cette affaire. Il me paraît clair qu'il y a de la peinture dans l'air. Alors qui va-t-on condamner? Le vrai coupable ou ce noir au lourd passé? Le dernier témoin est formel. Le crime n'a pas de couleur ni d'origine. Vous êtes informés.
Merci maître, maintenant passons à l'accusé. Si celui-ci a quelque chose à ajouter, sachez qu'après nous délibérerons, monsieur Socrate. Nous vous écoutons.
Faites preuve d'indulgence, le commissaire vous a menti. T'en as gros sur le cœur quand tu n'éduques pas ta fille, madame la présidente. J'avais 16 ans quand j'ai morflé, quand je surfais sur des vagues où des frères se sont noyés. J'ai la musique pour évacuer ma rage de vivre. C'est ma psychanalyse, celle qui m'analyse quand je fais mal. Madame la juge, je suis juste un beau coupable. Un repris de justice au cas irredoutable. Madame les rafales n'accouche que des cadavres. Retire du procureur, je suis trop menaçant pour qu'on me relâche. Je suis innocent, messieurs les jurés, s'il vous plaît, soyez clément. À cause de mon leur passif, vous oubliez que les hommes changent.
Monsieur Socrate, après délibération pour tentative de meurtre, avec préméditation sur la personne de monsieur MacGregor, tout a été prouvé, vous êtes reconnu coupable à l'unanimité. La cour vous a condamné à la peine de 5 ans de prison ferme. Sachez que vous avez 10 jours pour faire appel.
Mais qu'est-ce que tu me racontes là? Mais putain là j'étais en train de m'en sortir. Mais va te faire foutre, c'est quoi cette justice de merde? Mais fais quelque chose de baveux là, mais qu'est-ce qu'il y a?
Nous venons d'interviewer tout à l'heure le procureur et maintenant poursuivons notre émission sur la rubrique des affaires.
Accusé, levez-vous, monsieur Socrate. Dit MacTailleur, né à Aubervilliers le 23 avril 79. Votre casier judiciaire porte mention de deux condamnations.
Les affaires.
Voilà ma armée, séquestration. Vous êtes renvoyé devant la cour d'assises pour tentative d'assassinat sur monsieur MacGregor, né à Saint-Denis. Lors de l'instruction, vous avez nié les faits. Expliquez-vous aujourd'hui sur ce qui vous est reproché.
Maintenant, nous allons vous présenter deux affaires auxquelles nous avons assisté au tribunal.
Bonjour. Pour cette affaire, la présidente vérifie l'identité du prévenu et lui a demandé où elle habitait, son prénom et sa profession. Pour cette affaire, la prévenue s'appelle Christiane Aubin et elle est à la retraite. Pendant l'affaire, la greffière écrit l'acte qui lui est reproché. La présidente l'interroge pour avoir sa version des faits. Elle est accusée d'avoir conduit en état d'ivresse. Madame Aubin avait 1,60 g d'alcool dans le sang. Elle a déjà été arrêtée pour avoir été sous l'emprise d'un état alcoolique. Elle a fait une cure pour se désintoxiquer de l'alcool. Cette phrase a été dite par son avocat avec des dossiers médicaux que l'avocat a donné à la présidente. La procureure a demandé une peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis. Car si Madame Aubin recommence, elle serait en danger pour elle et pour les autres usagers de la route. Après le verdict de la cour, la décision de la présidente a été de 4 mois d'emprisonnement avec sursis.
Pour la deuxième affaire, la présidente vérifie l'identité du prévenu, son lieu d'habitation et son métier. Pour cette affaire, le prévenu s'appelle Thibaut Droma. La présidente annonce le chef d'accusation. Il est accusé de conduite sous l'emprise d'un état alcoolique. D'après les analyses, il conduisait avec 0,75 mg d'alcool dans le sang, contrairement à la norme autorisée qui est de 0,5 mg. La présidente interroge le prévenu pour avoir sa version des faits. Il dit avoir bu lors d'une fête, puis avoir pris le volant. D'après son casier judiciaire, ce n'était pas la première fois. Le procureur fait un réquisitoire car sa conduite était dangereuse pour lui et les autres usagers de la route et demande une peine de 6 mois de prison et 6 mois de retrait de permis. L'avocat de la défense fait une plaidoirie pour obtenir une peine moins lourde pour son client. Finalement, le verdict est annoncé. Le prévenu, Thibaut Droma, doit écoper de 6 mois de prison et 6 mois de retrait de permis.
Accusé, levez-vous, monsieur Socrate. Dit MacTailleur, né à Aubervilliers le 23 avril 79. Votre casier judiciaire porte mention de deux condamnations.
Les affaires.
Voilà ma armée, séquestration. Vous êtes renvoyé devant la cour d'assises pour tentative d'assassinat sur monsieur MacGregor, né à Saint-Denis. Lors de l'instruction, vous avez nié les faits. Expliquez-vous aujourd'hui sur ce qui vous est reproché.
Merci à Jules et Théo de nous avoir parlé des affaires et maintenant à la prison.
Monsieur Socrate, après délibération pour tentative de meurtre, avec préméditation sur la personne de monsieur MacGregor, tout a été...
La prison.
Vous êtes reconnu coupable à l'unanimité, la cour vous a condamné à la peine de 5 ans de prison ferme.
Sachez que vous avez 10 jours pour faire appel.
En France, il y a actuellement 188 établissements pénitentiaires. Il existe deux grands types de prisons. Les maisons d'arrêt reçoivent les prévenus en attente de leur procès et les condamnés qui ont une peine inférieure à 2 ans. Les établissements pénitentiaires reçoivent les condamnés qui ont une peine supérieure à 2 ans. Les maisons d'arrêt et établissements pour peine. Les quartiers centres pour peine aménagés pour les prisonniers ayant une peine de moins d'un an et sont axés sur la réinsertion de la société. Les centres de semi-liberté, centres où les détenus peuvent sortir la journée pour exercer leur métier, c'est un peu comme un internat, mais c'est strict. Les centres de détention, les détenus qui présentent les meilleures perspectives de réinsertion. Les maisons centrales accueillent les détenus pour des peines graves, ce sont des bâtiments conçus pour la sécurité.
Je vais vous présenter la vie en prison. Les conditions de vie en prison sont très difficiles. Les détenus ont une cellule pour 2 ou 3 personnes, une salle de sport, une cour commune et d'autres bâtiments. Ils ont des horaires et un emploi du temps très stricts. Le contact avec leurs proches est limité et sous surveillance d'un agent pénitentiaire. Pour pouvoir rendre visite à des proches, il faut des autorisations, comme un permis de visite. La démarche à suivre pour un permis de visite varie selon la situation de la personne à qui le prisonnier veut rendre visite. La prison garantit aussi le libre exercice de la religion. Le centre pénitentiaire doit donc organiser des aménagements pour emmener les prisonniers à l'église, la mosquée et la synagogue. La prison a une infirmerie pour pouvoir apporter les premiers soins aux prisonniers s'ils se brûlent, font un malaise ou une ouverture. Pour les blessures plus graves, les détenus sont transférés dans un hôpital à proximité, mais toujours accompagnés d'au moins 2 gardes. En prison, une journée type se résume à rester en cellule, se balader, faire du sport et travailler.
La vie hors détention. Le placement sous surveillance électronique, semi-liberté. Le placement sous surveillance électronique ou bracelet électronique est une mesure d'aménagement de peine qui permet à la personne de faire sa peine d'emprisonnement sans être en prison. Il peut également être décidé dans le cadre d'une libération sous contrainte ou dans le cadre d'une assignation à résidence en attendant l'audience de jugement. La personne peut avoir ce dispositif seulement si elle s'engage à rester à son domicile à certaines heures fixées par le juge qu'elle doit respecter. La personne porte le bracelet à la cheville. Si elle sort de chez elle en dehors des heures fixées, un surveillant pénitentiaire est tout de suite averti par une alarme. Le placement sous surveillance électronique permet d'exercer un métier, de suivre un enseignement, une formation, un stage ou un emploi temporaire, de rechercher un emploi, de vivre une vie de famille, de suivre un traitement médical ou de mieux se préparer à la réinsertion. Le travail d'intérêt général. Voté en juin 1983 et mis en place en 1984, le TIG, travail d'intérêt général, est une peine qui évite d'aller en prison. C'est un travail non payé au sein d'une association, d'une municipalité, d'un établissement public chargé d'une mission de service public. Le TIG vise 2 objectifs. Sanctionner le condamné en lui faisant effectuer une activité au profit du pays, dans le but de réparer les dégâts, tout en lui laissant de rester au sein de sa famille et de la nation ou de son travail. Permettre au tribunal d'éviter de mettre en place une peine d'emprisonnement de courte durée lorsqu'elle n'est pas indispensable ou qui ne ressemble pas au tempérament du condamné et à la gravité des faits qui lui sont reprochés.
Nous allons vous parler plus particulièrement de la prison de la santé, qui est un établissement pénitentiaire et une maison d'arrêt. Cette prison est la plus connue de France car l'on s'est peu évadé, mais quand on l'a fait d'une façon spectaculaire. Elle est aussi distinguée par son architecture en forme de croix. Cette prison est la dernière à être au cœur de la capitale. Elle se situe dans le 14e arrondissement à Paris. Elle peut accueillir 650 détenus, mais en 2014, vu la vétusté et les conditions de vie déplorables, un projet énorme de rénovation et de construction a été mis en place. Le chantier sera abouti en 2019 et pourra accueillir 800 détenus dans une zone de 2,5 hectares.
Monsieur Sokra, après délibération pour tentative de meurtre, avec préméditation sur la personne de Monsieur MacGregor, tout a été...
La prison.
Vous êtes reconnu coupable à l'unanimité, la cour vous a condamné à la peine de 5 ans de prison ferme. Sachez que vous avez 10 jours pour faire appel.
C'était les 4e A du Collège des Provinces.
Nous vous remercions d'avoir écouté notre émission sur la justice.
Merci à tous.